Bonjour, comment allez-vous ? Je suis étonnée et désolée de constater que beaucoup d'élèves de tous âges donnent, au cours d'un exercice, une mauvaise réponse alors qu'ils connaissent la bonne. En fait, ils ne se sont pas trompés dans la réponse, mais dans la question. Par exemple, ils répondent 7, car ils ont entendu ou lu que la question était « combien font 2 et 5 ?». Et en réalité, la question était « combien font 2 et 2 ?». Alors dans ce cas, le 7 devient faux, alors qu'ils savent très bien compter. La première idée est de demander à l'élève de relire la question, puis de relire la réponse. Ce n'est pas top, car son problème est qu'il se précipite, et il y a là un bel élan. Et lui faire lire et relire, en fait, ça le fait trépigner. Lire une fois suffit si on est complètement à ce qu'on lit. Vouloir aller vite n'est pas blâmable, c'est tonique et tentant. De même qu'on ne fait pas pousser une fleur plus vite en tirant dessus, on ne fait pas un devoir plus vite en lisant plus vite un énoncé. On ne partage pas non plus avec quelqu'un en répondant tout de suite à ce qu'il dit, sans prendre le temps de l'écouter jusqu'au bout. Le temps d'écoute n'est pas un temps mort, c'est un temps actif, si on écoute.
Bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 9 ans, et je voudrais savoir si c'était possible de ne penser à rien. Merci, au revoir.
Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France. Penser à rien, est-ce que c'est juste possible, demande Célia.
Eh bien, Célia, les scientifiques qui sont parfois de grands enfants se sont posé la question et ils ont utilisé les machines d'imagerie cérébrale les plus sophistiquées, en particulier l'IRM, pour examiner ce que fait le cerveau lorsqu'on demande à une personne de ne penser à rien. La personne s'allonge dans la machine, on lui dit restez là pendant 10 minutes et puis vous n'avez rien de spécial à faire, reposez-vous. Et on regarde quelle est l'activité de son cerveau. Eh bien, la découverte a été que le cerveau n'est jamais inactif. Jamais. Il y a énormément d'énergie qui est consommée en permanence par le cerveau. En fait, c'est 20% de l'énergie du corps au repos qui est consommée par le cerveau. Et cette énergie se traduit par des activités cérébrales qui fluctuent en permanence et qui ne s'arrêtent jamais. Et on le voit parce que, donc, à un instant donné, une région cérébrale va s'allumer. Souvent, c'est un réseau avec plusieurs régions distribuées dans le cerveau qui vont s'allumer en même temps. Et puis, la seconde d'après, ce réseau-là va s'éteindre, un autre va se rallumer, un troisième va s'allumer un petit peu plus tard. Et ces réseaux se ressemblent chez différentes personnes, donc on commence à pouvoir les classifier. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'ils font, mais on peut essayer de mettre en rapport l'activité du cerveau avec ce à quoi la personne a pensé, si elle peut nous dire après coup. Et très souvent, on s'aperçoit qu'il y a un réseau bien particulier qui a à voir avec l'introspection, la réflexion sur soi-même. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait par le passé ? Est-ce que j'aurais pu faire mieux ? Comment je me situe par rapport aux autres ? Toutes ces pensées introspectives font appel à un réseau bien particulier. Et souvent, c'est ce réseau qu'on appelle par défaut. C'est-à-dire qu'on revient à ce réseau-là quand on a fini les autres tâches qu'on nous a demandé de faire.
C'est un espèce de fond d'écran du cerveau, cette introspection. Même quand il n'y a pas un sujet défini, il y a toujours ça en permanence.
Le cerveau se définit ses propres buts. Il ne s'arrête jamais d'avoir une activité. On l'appelle aussi activité spontanée en neurosciences. C'est une propriété extraordinaire du cerveau d'être un organe toujours actif. Le cerveau ne s'arrête jamais. Et même dans le sommeil, on pense tous que le sommeil, ça consiste à se reposer et à arrêter finalement de penser. Mmh. Pas du tout. Il y a bien entendu le rêve qui est une forme de pensée.
Attends, on est très, très, très actif dans le rêve.
Et là, on est extrêmement actif. Mais même les autres périodes du sommeil, on est en train de se rendre compte que le cerveau n'est pas du tout inactif et que cela correspond à un traitement de l'information. C'est-à-dire que les informations qui ont été traitées à l'état de veille sont retraitées par le cerveau dans le sommeil. Et on peut dire que le cerveau fait tourner un algorithme de consolidation des apprentissages pendant la nuit, comme vous pourriez avoir dans un ordinateur. Le cerveau n'est pas un ordinateur, mais ce que vous avez appris la veille, eh bien, lorsque vous dormez dessus, vous allez vous réveiller le lendemain matin avec un cerveau qui le sait mieux le lendemain que la veille. Vous voyez, si on mesure la performance effective des gens dans des tâches qui peuvent être motrices, par exemple, ils font mieux juste parce qu'ils ont dormi dessus. Et il y a aussi la découverte de régularités nouvelles. Il a été très bien démontré maintenant en laboratoire ce que beaucoup de mathématiciens disent. J'ai trouvé la solution en me réveillant. Eh bien, on peut montrer effectivement que le cerveau cherche des solutions à des problèmes qui sont restés ouverts la veille et que pendant la nuit, il va parfois trouver la bonne solution.
Ce qu'explique le docteur Stanislas Dehaene avec des mots scientifiques mais simplifiés pour nous, c'est un peu ce que nous appelons mouliner, vous savez. Il m'a dit et j'y ai redit et j'y ai redit et j'aurais dû et tatata et tatata et tatata. Et on a du mal à arrêter la machine. Stanislas Dehaene a écrit entre autres La plus belle histoire de l'intelligence, édité chez Robert Laffont. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Je m'appelle Arthur, j'ai 10 ans et je voudrais savoir pourquoi les rideaux des théâtres sont rouges. Merci de me répondre, au revoir.
Bonsoir Arthur. Pourquoi les rideaux sont rouges, vous demande Arthur Agnès Piron.
Eh bien, le rideau de théâtre n'a pas toujours été rouge. Sous l'Ancien Régime, il était bleu. C'était la couleur des royalistes. Et c'est en fait Napoléon, tardivement, c'est Napoléon qui trouva que le rouge rendait les femmes plus belles, que le rouge rehaussait leur teint. Vous savez qu'effectivement, on met du rose aux joues et pas du bleu, du rouge aux lèvres. Et ceux qui mettent du bleu, c'est ceux qui veulent faire le genre gothique, donc le genre macabre. Il est vrai que c'est une question d'éclairage. Le rouge prend bien la lumière, ravive le teint, alors que le bleu rend livide. Alors, vous voyez qu'on dit le rouge théâtre pour un certain type de rouge. Le théâtre est devenu effectivement rouge et or, comme une ancienne collection pour enfants qui était rouge et or. Oui, moi je l'ai eu quand j'étais petite, la collection rouge et or, que j'aimais beaucoup. Mais en fait, le théâtre, c'est aussi une question politique, évidemment, puisque sous les royalistes, les théâtres étaient bleus. Et d'ailleurs, les sièges étaient bleus. Si vous allez à Versailles, le théâtre a été rénové, et très bien rénové, et vous verrez que tout est bleu. Donc le rouge au théâtre, c'est une invention d'un amateur de femmes, comme Napoléon, qui trouvait que le rouge allait bien à leur teint.
La fameuse collection Rouge et Or. Alors, sans vouloir être insultante, si vous avez eu la collection Rouge et Or quand vous étiez jeune, c'est que vous n'êtes pas tout à fait un perdreau de l'année. On ne peut pas dire « moi j'ai lu Rouge et Or et j'ai 22 ans », ça ne marche pas.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. Et s'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux. Garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme.
Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant on crèvera tous comme des rats.
Stop. Stromae, c'était Carmen. Regardez le clip de cette chanson dessinée par Sylvain Chaumet. Vous savez, c'est le réalisateur des Triplettes de Belleville.
Les petits bateaux sur France Inter.
Je pense que nous avons presque tous vu ce reportage, parce qu'il revient régulièrement, de cet agriculteur qui passe de la musique classique à ses vaches.
Bonjour, je m'appelle Amé, j'ai 5 ans et je voudrais savoir si les animaux sont sensibles à la musique. Merci, au revoir.
Que pensez-vous de cette question, Emmanuel Bigan, enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne en musique, cognition, cerveau, auteur des bienfaits de la musique sur le cerveau, édité chez Belin? Vous avez cherché sur les animaux et la musique?
Alors c'est une question qui nous intrigue tous, bien évidemment.
Oui.
Alors on peut y répondre de façon simple. Une chose qui est certaine, c'est que les animaux sont sensibles au son. Et la musique, c'est du son. Donc tant qu'on en reste là, on sait que les animaux sont sensibles à des structures sonores. Et même pour tout dire, ça fait partie des études qu'on fait sur ce qu'on appelle les environnements enrichis. C'est-à-dire que si on fait entendre à des rats, par exemple, des structures sonores qui sont plus riches que celles qu'il entend habituellement, ça modifie un petit peu son cerveau. Bizarrement, ça le rend plus intelligent. Donc ça fait partie de ces effets de surstimulation qui peuvent modifier l'évolution du cerveau des animaux. Et on sait également que les animaux sont sensibles au bruit, ce qui est logique. Ouais. Et la musique, c'est aussi pour eux du bruit organisé plus ou moins. Pour les humains, la musique, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est du son, mais bien évidemment, c'est du son fait par des êtres humains, donc avec des logiques d'êtres humains dans des objectifs de communiquer des sentiments, des expressions, des états psychologiques d'êtres humains. Donc pour nous, quand on parle de musique, c'est évidemment pas uniquement le son que l'on signifie, mais c'est tout ce qu'il y a caché derrière le son qui concerne l'être humain. Donc est-ce que les animaux peuvent entendre cela ? C'est une vraie question, mais il n'y a pas tellement de raisons qu'ils voient dans Mozart la même chose que nous on voit dans Mozart, même si les sons que produisent la musique de Mozart peuvent avoir un effet sur eux. Donc il faut être très prudent. Ceci étant, il y a encore un autre aspect dans cette question très intéressante, c'est de savoir si les paramètres auxquels nous portons attention dans la musique, par exemple le rythme, la hauteur, sont des paramètres qui intéressent les animaux. Est-ce qu'il y a des animaux qui dansent en rythme ensemble? Est-ce qu'il y a des animaux qui sont capables de se synchroniser avec une musique qui est régulière? On n'en a pas trouvé, sauf chez certaines espèces d'animaux, d'oiseaux, de perroquets, qui arrivent à danser en rythme, et c'est les seuls. Mais on n'a pas d'animaux qui dansent en groupe, en rythme. Donc il y a des aptitudes musicales qu'on observe chez l'humain, qu'on a du mal à trouver pour le moment chez l'animal. Mais ça nous intrigue, parce que si on les trouve, ça veut dire que les compétences musicales ont été partagées dans la phylogénèse avec d'autres espèces. Et ça, ça nous intéresse beaucoup.
Avant qu'on devienne humain, on avait déjà...
Par exemple, la baleine semble avoir des prédispositions pour la musique. C'est étrange, parce que la baleine n'est pas l'animal le plus proche de nous dans l'arbre généalogique. Mais ça pourrait laisser penser qu'il y a très 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 longtemps dans l'évolution des cerveaux, il y a des compétences pré-musicales qui ont été partagées par l'humain et par d'autres espèces que nous avons continué à développer, que les autres espèces n'ont peut-être pas développé, mais l'histoire donc des aptitudes musicales pourrait être très 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 ancienne. Et ça, ça nous intrigue bien sûr.
Et oui, ça nous intrigue. Alors avant de passer à la suite, j'aimerais donner une petite précision orthographique. Vous savez qu'en français, il y a plusieurs façons d'écrire le son « quand ». Par exemple, un cantor, un cantique, une chanson, ça s'écrit « c-a-n ». Mais si je parle d'une quantité, ça s'écrit « q-u-a-n ».
Je m'appelle Léa et j'aimerais savoir, qu'est-ce que la physique quantique et à quoi ça sert ? Vraiment. Merci, au revoir.
Bonsoir Léa. Julien Bobrov, vous êtes physicien, évidemment. Vous enseignez la physique, vous êtes professeur à l'université Paris-Sud, c'est-à-dire à Orsay. Et vous êtes spécialisé, entre autres, dans la physique quantique. Et vous avez écrit, ce n'est pas tout, Mon grand mécano quantique, édité chez Flammarion. Alors quantique, on peut peut-être déjà donner l'orthographe ?
Oui, alors c'est Q-U-A-N-T-I-Q-U-E.
Alors, pour répondre à l'air, 3 minutes sans dessin.
Allez, 3 minutes pour expliquer la physique quantique. La physique quantique, c'est une physique qui a été découverte il y a à peu près 100, 120 ans. On s'est rendu compte, les physiciens se sont rendu compte que, à toute petite échelle, à l'échelle de l'atome, à l'échelle du noyau, de l'électron, la matière se comportait pas comme on en avait l'habitude jusque-là. Jusque-là, on avait les lois de la mécanique, les lois de l'électricité, du magnétisme. À cette échelle-là, Les lois de la physique sont différentes. Les lois sont très étranges, étranges parce qu'elles nous échappent, elles échappent à notre intuition. On les comprend très bien scientifiquement, mais elles nous semblent très curieuses. Par exemple, un électron ne va pas être une petite bille, mais va être une espèce de nuage. On va pouvoir lui faire passer certaines barrières. Normalement, il rebondirait dans la vie de tous les jours. Il va pouvoir être à deux endroits à la fois, etc., etc. Donc plein de paradoxes et de choses étranges de ces lois qui se jouent à toute petite échelle. Alors quand je raconte ça, on peut se dire, bon bah ok, il faut aller dans un laboratoire avec des physiciens et des machines énormes pour voir cette physique en action. Et c'est vrai, c'est ce qu'on fait dans les laboratoires encore aujourd'hui. C'est un des sujets les plus étudiés en physique actuellement. Mais Léa, tu demandais très justement, est-ce que ça sert à quelque chose? Alors il se trouve que oui. Il se trouve que d'abord, ça sert à comprendre le monde qui nous entoure. Si on veut vraiment comprendre la couleur des objets, pourquoi cette table-là est solide, pourquoi un aimant colle sur un frigo, et ben on ne peut le comprendre qu'avec la physique quantique. Donc déjà, ça permet de mieux comprendre notre univers, et c'est déjà pas mal.
Est-ce qu'on peut dire que la physique quantique, c'est la physique du tout petit?
Alors c'est la physique du tout petit, mais finalement qu'on va voir indirectement à notre échelle, parce que tout ce qui nous entoure est composé du tout petit. Hein, ce micro-là devant moi qui est rouge, il est composé de plein d'atomes, et pour comprendre la couleur du rouge, il faut que je comprenne pourquoi ces atomes, quand je leur envoie de la lumière, ben ils recrachent le rouge, et ils absorbent plutôt le bleu. Donc ça, c'est le premier temps. Et puis le deuxième truc qui a été incroyable, c'est qu'une fois qu'on a compris, on s'est mis à inventer. Et donc c'est là où la physique quantique va être vraiment utile. C'est qu'elle va inventer des technologies en manipulant les atomes, les grains de lumière, les électrons, les photons. Et alors là, on peut en citer quelques-unes de ces technologies. Le laser. Le laser, c'est une invention de la quantique. Les LED, qui servent à nous éclairer maintenant de façon très économe, c'est une invention de la quantique. Et puis l'invention de la quantique peut-être la plus formidable, on l'a tous ou presque dans nos poches, c'est l'électronique. Le smartphone, par exemple, il fonctionne grâce à des transistors qui ont été inventés par les physiciens de la quantique. Ils savaient manipuler les électrons dans des sortes de métaux qui leur ont permis de réinventer l'électronique miniature. Donc en fait, la quantique, elle est partout autour de nous, au quotidien. Un très bel exemple que j'aime bien, c'est les clés USB, ou alors les mémoires dans les téléphones portables, ils utilisent l'effet tunnel, cette espèce d'effet où les électrons peuvent passer à travers une barrière. Mais en fait, ils sont là dans votre poche en permanence, et c'est ce qui est utilisé pour faire des mémoires électriques.
Quantique comme quantité.
Quantique comme quantifié, en fait. C'est l'idée qu'il y a des espèces de paliers, c'est très discontinu comme physique, on passe très soudainement d'un état à un autre état. On n'y va pas de façon molle et délicate. Et donc, d'où le mot quantique.
Ah, mais j'ai oublié une troisième façon d'écrire le son quand, K-A-N-T, comme Emmanuel Kant, le philosophe.
But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day.
Céleste, c'est le nom de la femme de Babar, c'est également le nom de cette jeune chanteuse britannique Céleste Epiphany Waite qui vient de nous chanter Stop This Flame sur France Inter où vous écoutez Les Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 13 ans et j'aimerais vous poser une question. En fait, lorsqu'on voit une personne aveugle dans la rue, est-ce qu'on doit l'aider? Et si oui, de quelle manière? Je vous remercie par avance de votre réponse.
Nous te remercions d'avoir posé cette question que nous nous posons tous, Julien. Hamou Bouakaz, vous êtes parisien, je crois. En tout cas, vous vivez en région parisienne, j'imagine.
Absolument.
Et vous ne voyez pas. Votre métier, c'est d'être conçu, entre autres, c'est d'être consultant et conférencier dans le domaine de la diversité. Donc vous vous occupez de la circulation, entre autres.
Je fais circuler tout, les gens, l'information,
C'est bien
la joie, le bonheur.
Alors que pourriez-vous répondre à Julien? Quand on voit un aveugle dans la rue, qu'est-ce qu'on fait, en gros?
Julien, j'adore ta question, et en plus j'adore la façon dont tu la poses, parce qu'on sent que tu y as réfléchi, que tu es quelqu'un d'organisé, et que tu veux que je te réponde 1, 2, 3. Alors 1... Tu n'aides une personne non-voyante que si tu le souhaites. 2, c'est très simple d'aider une personne non-voyante. On va vers elle, on lui dit bonjour, et on lui dit, est-ce que vous souhaitez un coup de main? Et on attend la réponse. Et si la personne répond non, c'est pas forcément qu'elle est méchante. C'est que parfois, elle a choisi d'être autonome dans ce déplacement. Et donc, pour peu que la personne ait été aimable, parce que si elle n'est pas aimable, on peut aussi le lui dire, tu lui dis au revoir, merci. Mais si tu tombes sur moi, je te répondrai toujours oui. Pas forcément parce que j'ai besoin.
Parce que vous êtes un homme.
Mais parce que j'aime ce contact. En fait, je passe ma vie à faire du voyant-stop. Tu sais ce que c'est le voyant-stop? C'est le meilleur moyen de transport. Avant le covoiturage, les gens levaient le pouce et puis une voiture les prenait pour aller d'un point à un autre. Moi, je sors de chez moi, je me tourne avec mon plus beau sourire. Dès que j'entends un pas, je dis « Bonjour, vous n'allez pas au métro ?» Et la personne me dit oui. Et alors j'en profite pour lui dire « Alors vous venez d'où ? Ah, vous êtes colombienne ? Alors qu'est-ce qui se passe en Colombie en ce moment ?» Et je suis devenu un spécialiste de la politique étrangère, un spécialiste du tannage du cuir. Bref, je m'imbibe de toutes les vies de ceux qui m'aident. Et je suis débiteur de plusieurs centaines de jours hommes à l'humanité parce que j'ose être faible et j'ose demander de l'aide. Parce que pour moi, c'est une façon d'interagir. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais très bien m'en passer. Il y a des GPS spécialement adaptés pour les aveugles. De plus en plus de logiciels nous permettent de savoir à quel moment passent les bus, passent les tramways, passent les métros. Mais il y a un plaisir à partager. Donc, bien sûr, tu peux aider. Et chaque personne étant différente, tu peux aussi demander « Comment voulez-vous que je vous prenne ?» En général, on prend le coude de la personne. Mais certaines personnes préféreront que tu marches à côté d'elle. Bref, instaure le dialogue et tu verras, tu récolteras des pépites.
Hamou Bouakaz pratique le blabla piéton. Vous pourrez trouver son site sur celui des petits bateaux. Vous pouvez réécouter ces petits bateaux sur franceinter.fr. Nous, c'est Florent Layani, Noël Bréa, Marjorie Devoucou, Eliane Girard, Jean-Baptiste Audibert, dans le désordre.